Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Je pense que t'es encore en direct et voilà mon ami, salut Corto, il est là presque réveillé, ça va?
Oui, ça va, un peu de... le stress du matin quoi.
On est le lundi janvier, il est 8h30, tout va bien. Au programme de cette matinale, nous parlons de mode dans un instant avec Élise qui est styliste. C'est lundi et presque comme tous les 15 jours, c'est Raphaël qui viendra nous faire son histoire brève. Aujourd'hui, il nous amène à Détroit. Et en dernière partie d'émission, Corto t'a rencontré Martin, notre cher Martin, dans le cadre d'un projet radiophonique consacré au combat de la jeunesse. On dressera son portrait en fin de matinale. Il y aura de la musique comme d'hab. Je tiens à signaler que c'est Raphaël qui a choisi Trio, mais heureusement que c'est tiré du deuxième album, donc ça va. Et on commence, Corto, si t'es prêt, par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Il y a des jours comme ça. L'année 2021 s'était achevée sur la promesse de grands changements à gauche. L'hypothèse d'une primaire commune, l'arrivée dans le paysage de Christiane Taubira, le vrai faux départ d'Arnaud Montebourg. Mais en ce début 2022, l'heure est au grand bond en arrière. À moins de 100 jours de la présidentielle, et alors que Jean-Luc Mélenchon continue, lui, de tracer son sillon, s'éloignant autant que faire se peut du marasme dans lequel sont plongés ses concurrents de gauche, les roses et les verts tournent en rond dans leur bocal englué dans leur errements tactiques. A la fin, il est probable qu'aucun accord ne sera trouvé entre les Verts, les socialistes ou ex-socialistes et Christiane Taubira. Au grand désespoir d'une partie des troupes si désemparées que les tribunes unitaires s'apprêtent à reprendre de plus belle et qu'une dizaine de militants des Marches pour le Climat, mais aussi l'eurodéputé Pierre Laroutourouz et la fille de Stéphane Hessel se sont mis en grève de la faim pour exhorter cette gauche à penser enfin, je cite, au destin de notre humanité. Alors qu'on est à deux droits de se prendre un deuxième tour en Macron contre l'extrême droite, les nombrilistes de gauche continuent de la jouer solo. Entre Jadot qui dit qu'il n'est pas là pour sauver le Parti Socialiste, entre parenthèses c'est pas ce qu'on lui demande, Hidalgo, qui avoue à demi-mot que son parti voulait mettre les écolos au pied du mur et que ces derniers devraient participer à la primaire s'ils ne voulaient pas perdre, Montebourg qui a disparu des radars, c'est pas un tort, et Mélenchon qui continue de la jouer solitaire et qui s'en fout de quelques primaires que ce soit, et pour finir le candidat communiste, car oui, il y a un candidat communiste, il s'appelle Fabien Roussel, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Bref, la gauche est plus que jamais moribonde et il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et Taubira, dans tout ça, me direz-vous? Elle avait juré qu'elle ne serait pas une candidate de plus, mais trois semaines après l'annonce qu'elle envisageait d'être candidate à la présidentielle, force est de constater que, faute d'avoir créé la dynamique escomptée, l'initiative de Taubira rime pour l'heure avec addition plutôt qu'avec soustraction, elle est clairement en campagne. Encouragée par le collectif citoyen, Taubira pour 2022, persuadée que sa stature ferait la différence et qu'elle pourrait être le trait d'union tant attendu à gauche, Taubira espérait bien sidérer les appareils partisans en les contournant. Perdue. Elle est au plus bas dans les sondages et ne fait que se rajouter au marasme ambiant qui règne en ce moment à gauche. Pour reprendre la métaphore de Don't Look Up, ce film avec DiCaprio où une comète s'abat sur la Terre et tout le monde s'en fout, une comète se pointe sur la France, tout le monde la montre, la gauche regarde son nombril. La présidentielle, c'est dans 99 jours. On écoute Sunday, Bloody Sunday de U2, j'ai pas fait exprès de choisir ce morceau.
Close my eyes and make it go away. How long
c'était YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Et c'est avec plaisir que j'accueille Élise. Bonjour.
Bonjour.
Élise, tu es styliste. On va parler de mode ce matin, c'est ma grande première. Alors, déjà, on va contextualiser. C'est quoi être styliste ?
Je suis styliste et je suis modéliste. Donc, ce sont deux choses très différentes. Styliste, c'est-à-dire que tu crées par dessin les silhouettes. Voilà, que tu habilles, que tu inventes des vêtements, tu les crées. Modéliste, c'est prendre un dessin qui est de toi ou de quelqu'un d'autre et le mettre en forme, en volume, sur un mannequin. Souvent, une vraie fille.
Mmh. Voilà. Là, je viens de comprendre déjà. Ouais. Alors, comment on en arrive là ? Comment t'en es arrivé à travailler dans la mode ? C'est quoi ton parcours, finalement ?
Mon parcours, c'est... m'opposer à ce que mes parents voulaient me faire faire. Voilà. Depuis gamine, quand je raconte une petite anecdote.
Avec plaisir.
Quand j'étais gamine, il y a eu l'arrivée, on juge du bienfait des choses ou pas, ou de ce que ça véhicule, je m'en fiche, mais il y a eu l'arrivée des Barbie.
Ah, la fameuse...
En Europe, ouais. La Barbie est arrivée. Barbie coûtait la peau des fesses à l'époque. Voilà, moi, quatre enfants à la maison, il était bien évident que j'allais pas recevoir de Barbie. J'avais 12 ans. Wow. Et j'ai commencé à fabriquer des poupées que j'ai habillées de toutes les façons possibles et imaginables.
C'est vraiment l'enfance qui t'a tout d'un coup déclenché une passion pour ça.
Ah oui, j'adorais coudre. Voilà. Ensuite, à 15 ans, j'ai fait quand même des cours de coupe et de couture en cours du soir pendant 3 ans. Et à 15 ans, j'habillais toutes les dames de la rue sur mesure.
C'était où ça ?
À Bruxelles. Voilà.
Ah, j'adore Bruxelles, pour plein de raisons en plus. Et donc voilà, c'est parti. C'est devenu ton métier directement, quoi. C'est-à-dire que...
Non, j'ai fait 4 ans d'études de stylisme et de modélisme. J'ai fait aussi un parcours d'architecte d'intérieur et de designer. Voilà. Et puis je me suis lancée à une époque où tout était merveilleux.
Il y a encore beaucoup de choses de merveilleuses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu parties en vrille.
Ah non, oui, c'était incroyable. Donc c'était en 69, tu jetais une pelote d'épingle en l'air, elle retombait cousue, quoi.
C'est une belle image, j'adore.
Voilà, et donc j'ai fait ma première collection, qui était une toute petite collection, il y avait peut-être 6 ou 7 pièces. Et en 15 jours, j'ai eu 6000 pièces en commande.
La classe.
Je suis partie en stop. Avec ma valoche remplie de mes collections, faire le tour des boutiques de la mer du Nord. La mer du Nord, c'est le rendez-vous huppé de tous les Belges. Voilà, donc il y a de belles boutiques. Et voilà, et ce que j'ai créé, je ne sais pas pourquoi, était juste ce qu'on attendait.
C'est toi qui devais démarcher.
Je faisais tout.
Alors avant de reparler de tout ça et puis de continuer de parler de stylisme, on a toujours tendance à voir, en tout cas pour la haute couture, un monde un peu bling bling. Bon, je pense notamment au Fashion Week, etc. C'est quoi ton avis ? Est-ce qu'on peut déconstruire ces clichés ? Et là, pour moi, je suis là pour ça.
Moi, j'ai construit, mais complètement. J'ai travaillé en haute couture, j'ai eu cette chance comme modéliste chez Scherrer. Voilà. Et c'est le plus beau moment de ma vie. C'est des tissus qu'on ne voit jamais nulle part. Il y a des gars qui arrivaient du fin fond de l'Inde, ils jetaient des rouleaux de gaz, de soie, on appelle ça du gazar, ils jetaient les rouleaux dans le studio du couturier, c'était mais somptueux. À ce moment-là, je devais dormir avec un paquet d'un centimètre de crème sur les mains et des gants en coton, tellement les tissus étaient fins, et que des doigts normaux, on éraillait les tissus en les touchant.
Ouais, donc tu le compares à tout autre art comme la peinture,
etc. C'est un art parfait. Oui.
Ok, oui. J'enlève le cliché. Bien joué. C'est quoi être un bon ou une bonne styliste ? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Même modéliste, hein, d'ailleurs.
Oui, mais je pense qu'il faut savoir regarder les gens. Pour moi, c'est le plus important.
Leur silhouette, etc. Tout, savoir comment... ce qui va les habiller, etc.
Comment ils bougent dans l'espace. Si je dois faire quelque chose, si j'ai une commande, je ne discute pas de ce que la personne veut, du tout. Je la fais bouger dans mon salon, avancer, reculer, s'asseoir, boire un verre d'eau, ou d'autres choses d'ailleurs. Voilà, et je vois comment elle bouge. Et en plus de sa morphologie, comment elle occupe l'espace. Et après, on peut tout inventer.
Est-ce que, justement, les couturiers, les couturières doivent suivre, stylistes, modélistes, on se comprend bien, doivent suivre, je dirais, une tendance, ou est-ce qu'ils se laissent aller dans leurs émotions?
Je ne sais pas trop ce que font en général les autres. Moi, je sais que je fonctionne à l'intuition et à l'émotion, uniquement.
Quels sont les plus beaux moments, ou le plus beau moment que tu as vécu en travaillant dans la mode?
Je crois que c'est ça, mon expérience de haute couture.
C'est un monde à part.
C'est un monde complètement à part. Mon mannequin, c'était la sœur de Naomi Campbell, qui s'appelle K.O. Et donc, cette fille était tellement belle, incroyable. Et je devais mouler les vêtements sur elle avec des épingles, juste des ciseaux et des épingles. Je ne cousais pas là-bas, hein. Jamais. Donc j'avais un tabouret, parce qu'elle était tellement grande.
On en a bien l'image.
Voilà.
C'est beau. On va parler de tissus. Est-ce que les tissus se travaillent de manière différente? Est-ce qu'il y a des tissus qui sont plus faciles à travailler? Comment ça se passe? Et comment on les choisit aussi?
Je ne sais pas. Ça, c'est quand même une de mes grandes qualités. Si je suis devant un hangar avec 50 000 pièces, je vais foncer sur des tissus, des vêtements qui pendent, mais sur le tissu et la couleur. Et chaque fois, je tombe sur quelque chose de bien. Donc les tissus, oui, c'est passionnant. Toutes les textures différentes, tout ce qu'on touche dans les mains, il faut jouer avec le tissu, il faut le sentir, il faut le dérouler, il faut voir comment il tombe, comment il... Voilà. Et avec un tissu, on peut faire telle sorte de choses. Et puis un autre sera très différent.
Est-ce qu'il y en a que tu préfères quand même travailler?
Ah ben oui.
Du genre?
Oh ben tout ce qui est... J'aime bien toutes les laines fines. J'aime bien les soies, j'aime bien les cotons.
En plus de ça, ce monde est extrêmement riche. Hein, puisque si on va parler d'un tissu qui vient d'Inde ou d'un tissu africain ou même d'un tissu qui va venir de France tout simplement, c'est très très différent. Et ce que ça doit dégager par les personnes qui l'ont fabriqué, ça doit être extrêmement différent. Est-ce que ça inspire aussi dans la création?
Oui, ça inspire dans la création. Oui.
Toi, le plus beau tissu qui t'est donné à travailler, c'était quoi?
Un gazard de soie.
Qui vient d'où?
Qui venait des Indes. Voilà, une soie naturelle d'une finesse incroyable, complètement, j'oublie le mot, je voudrais dire presque éthéré comme ça, d'un truc translucide. Je ne sais pas si toi tu connais l'organdi.
Pas
ça
du te tout, dit quelque comme, chose comme je te dis, je suis tu très novice rien. Là-dedans, je suis là pour apprendre.
Donc de l'organdi, c'est ce que les petites filles mettaient il y a 50 ans quand elles faisaient encore leur petite communion. On leur faisait des petites robes de mariée comme ça, ça c'était souvent en organdi. Mais le gazard de soie... C'est de l'organdi puissance 100. C'est plus fin, c'est plus souple, c'est plus beau. Voilà.
Ça fait flipper aujourd'hui tout ce qui est synthétique.
Ben oui.
T'en travailles pas du tout?
Non, j'en travaille pas du tout. Je déteste ça, je n'aime pas le toucher. En plus, ça me fait des étincelles sur les mains. Et je n'aime pas le coudre. Non, j'aime pas l'utiliser.
T'as dit que t'avais travaillé pour Scherer, c'est ça? J'ai bien compris. Est-ce que c'est un couturier qui t'a inspiré, ou est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu pourrais citer?
Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré. Il y a Albert Elbaz qui vient de mourir. Voilà. Et ça, c'était quelqu'un de qui avait beaucoup de sensibilité. Il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont inspiré. Vraiment beaucoup. Christian Lacroix, pour moi, il était fabuleux. Voilà, ça c'est des gens que j'aime. Et puis alors t'as les grands classiques, on ne doit jamais renier. T'as mais comme Saint-Laurent qui était un dieu de la construction d'un vêtement, quoi.
J'ai un l'allemand aussi qui est décédé il y a 3-4 ans, le plus connu, qui parlait un peu comme ça.
Ben oui.
Lagerfeld, un grand merci. Tu vois où j'en suis là quand même dans la culture.
Dans les grands couturiers, il y en a un que j'adore, c'est Givenchy. Voilà, qui faisait une mode pas excessivement... je sais pas, tout était très féminin, très beau. et simple, une simplicité.
Ce qui est extraordinaire, donc vite fait, en préparant un petit peu cette interview, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui déjà dans des grandes maisons de couture. Quel regard tu portes sur cette jeunesse, justement, 20, 25, 30 ans,
bah c'est bien.
Qui sont déjà là, c'est fou.
Oui, c'est bien. Il y en a beaucoup qui vont faire l'école d'Anvers, qui est la plus réputée en ce moment en Europe. Et donc, de l'école d'Anvers, ils repartent comme stagiaires chez des grands couturiers. Je ne pense pas qu'à mon époque, ça se posait comme ça.
Aujourd'hui, tu as un tout petit peu changé de branche, légèrement, tu vends du prêt-à-porter. Comment on choisit un beau vêtement, à ton avis? Même si j'avoue que c'est peut-être une question un peu personnelle, mais comment expliquer quelque chose va te plaire et que tu vas avoir envie de le vendre? Comment on fait?
C'est ce que je te disais tout à l'heure. D'abord le tissu, la couleur, et une fois que tu as sélectionné un tissu, une couleur, tu regardes la coupe. En général, si c'est un beau tissu, il y a une belle coupe. Voilà.
Est-ce que tout va à tout le monde?
Non.
je me doutais un peu de la réponse en posant la question. Ouais.
Non. Il faut bien se connaître pour bien s'habiller. Et puis, il faut jongler avec les couleurs. Je trouve que c'est un petit peu dommage quand on regarde le paysage urbain autour de soi. Ben, il n'y a pas tellement de joyeuseté dans l'habillement. Je ne dis pas qu'il faut être élégant. Ça, je m'en fiche. L'élégance, elle peut être en camouflage, elle peut être n'importe quoi. Tu vois, mais je parle de l'élégance, la conception traditionnelle de l'élégance. Ça n'a pas d'importance. Mais que les gens soient un peu fantasques, un peu fantaisistes.
Qu'on ait un peu plus de folie aujourd'hui.
Bah oui, oui.
Moi, je sais pas m'habiller et pourtant on me dit que je suis bien habillé des fois. Ça s'explique.
Un coup de poker.
C'est peut-être un gros coup de bol. Est-ce que tu dessines encore des habits aujourd'hui?
Oui, je dessine, oui.
T'as encore envie de créer et de reproposer une collection?
Je continue à faire plein de choses. Je crée maintenant quasiment dans le wax africain.
Le wax, c'est magnifique. Oui,
c'est très beau. Donc j'ai été complètement séduite par ces wax. J'ai eu la chance de voyager beaucoup, beaucoup en Afrique subsaharienne. Notamment au Togo, où c'est le marché de toute l'Afrique de l'Ouest, est à Lomé. Et donc là-bas, mais tu tombes par terre devant la beauté des wax.
Est-ce que, alors petite parenthèse qui n'a peut-être rien à voir, mais justement les tissus, le wax notamment, est vendu à sa juste valeur, je veux dire monétaire. Parce qu'on parle d'Afrique, donc...
Non, un beau wax, c'est cher. C'est très cher. D'ailleurs, je ne m'en paye pas souvent, mais ils sont trop chers.
Mais tant mieux, ça veut dire que ceux qui le font sont rémunérés à leur juste valeur aussi.
Si tu veux, les wax africains, les beaux wax, viennent de Hollande. Où ils sont, donc ce sont les Vlisco. Je ne sais pas si on peut faire de la pub, c'est pas grave.
En tout cas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je ne sais pas si le CSA capte quoi que ce soit à ce qu'on est en train de dire.
Donc, ils sont imprimés en noir sur blanc en Hollande. Et les rouleaux de tissu partent imprimés, noir et blanc. Et ils les mettent en couleur au Togo.
Passionnant.
Ça, c'est super. C'est pour ça qu'il y a souvent dans les wax, tu as des assemblages de couleurs que nous, occidentaux, on n'aime pas. Tu en as d'autres qui sont sublimes, qui sont somptueux. Mais ça dépend des coloristes qu'il y a sur place.
On parle vraiment en plus d'échanges culturels. Là. Oui, c'est complètement fou. Oui. Quel conseil, s'il en est, hein, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la mode en tant que styliste ou modéliste, hein, parce qu'on l'a dit, il y a quand même pas mal de métiers dans la mode. Quel conseil tu donnerais?
Une base de coupe et de couture. Parce que j'ai croisé des stylistes et c'était pas bien, dans la mesure où ils savaient dessiner. Mais ils n'avaient aucune notion de couture, de la façon de faire les choses. Et donc, voilà, j'ai travaillé beaucoup pour des étudiants en Belgique qui étaient en fin d'année, qui devaient présenter des prototypes de leurs vêtements. Et ils ne savaient que dessiner. Ils ne trouvaient personne qui pouvait monter leur collection. J'ai notamment fait quelque chose qui a été passionnant parce que j'aime bien les défis techniques. J'ai fait une collection d'espèces d'insectes pour un étudiant. Il avait fait toute sa collection, tu vois, les doryphores, voilà. Il y avait toutes des espèces de carapaces, d'ailes, comme ça, partout. C'était magnifique. Bon, mais un truc technique très compliqué à faire.
Et enfin, pour finir, peut-être la dernière question, la haute couture, etc., les prix qui s'enflamment, tout ça, est-ce que ce serait possible de la rendre abordable un peu plus facilement ou pas du tout?
Non. Non. Ce n'est pas... C'est réservé à une élite financière. C'est dommage. Mais quand tu vois le travail que demande une robe, c'est incroyable. Incroyable le nombre d'heures, de c'est un truc de fou avec des gens tellement doués pour les fabriquer. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas combien se montent les prix d'une robe de haute couture pour le moment. Mais il y a un savoir-faire qui est vraiment de l'artisanat de grand, grand, grand vol.
Est-ce que dans les pièces que t'as confectionnées, que t'as fait, il y en a où tu te dis « Ah, celle-là, j'aurais bien voulu la garder pour moi parce qu'elle est magnifique et que tu as mis un truc particulier ?»
Mais je les garde.
Ah, bah tu les gardes. Il n'y en a pas une comme ça où tu te dis « Ah, mais si, bah, parce que, comme on disait tout à l'heure, que tu regardes les gens, etc. Oui. » Et là, tu vois quelqu'un qui porte bien ton avis, est-ce que...
Non, je suis contente. Je suis contente si la personne se sent bien à l'aise dans une création que je lui ai faite et tout. Mais je les laisse partir avec vraiment plaisir. Et quand je veux quelque chose, je me le fais, donc il n'y a pas de problème.
Ou l'avantage, c'était ma grande première. Merci beaucoup, Élise.
Mais voilà.
Et voilà.
Ben, bah, à bientôt.
Avec plaisir, parler de stylisme et de modélisme. Grande première sur cette antenne. À très bientôt et bonne route.
Ok.
Avec plaisir. En plus, tu as la voix qui chante mon pays, du coup.
Merci à toi.
Merci.
Au revoir.
C'est lundi et c'est avec plaisir. Comme tous les 15 jours, nous sommes avec Raphaël. Salut.
Salut.
Toujours un plaisir. Qu'est-ce qu'on va prendre dans la tête aujourd'hui? Histoire bref, t'es chaud?
Oui.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein?
Histoire bref. Monsieur de Paris, je me fais du souci pour vous aujourd'hui. J'ai vu en arrivant à la radio ce matin que vous aviez encore une fois cédé à vos pulsions dépensières qui sont, je vous l'ai déjà dit, beaucoup trop fréquentes. Vous vous êtes acheté sur eBay les Santiago de Francis Lalanne, qu'il a apporté sans aucune discontinuité, pas même la nuit, entre décembre 1996 et février 2008. Elles ont dû vous coûter une fortune.
Une fortune.
Certes, vous les portez en ce moment même, mais qu'allez-vous en faire cet été? Vous savez très bien que votre peau délicate a du mal à supporter le cuir. Alors les Santiago Croco? C'est un échec que vous ne pourrez pas justifier et qui ne sera jamais rentabilisé. D'autant plus que je crois que vous êtes une nouvelle fois servi du compte PayPal de l'association Radio Bartas. Soit disant parce que ne me coupez pas s'il vous plaît. Soit disant parce que, je cite, vous donner l'image de l'une de vos idoles renforcerait votre crédibilité professionnelle en tant que personnalité de la radio. C'est ce que vous avez dit lors du dernier CA.
Tout à fait.
Vous déraisonnez beaucoup trop souvent. On vous l'avait déjà dit lorsque vous aviez voulu vous procurer la dernière lampe de Claude François. Vous ne pouvez pas dilapider le budget de la radio à ses fins strictement personnelles et pas du tout rentable, sinon il va vous arriver la même chose qu'à Le Voilà Opéré, ou même pire qu'à Détroit. Mais savez-vous seulement ce qui s'est passé à Détroit en 2014?
Ah bah je sens qu'on va apprendre quelque chose encore aujourd'hui.
Alors au XXe siècle, la ville de Détroit connaît une croissance exceptionnelle. Elle est au cœur de l'industrie automobile américaine, idéalement située au cœur d'un réseau des métropoles très dynamiques du nord-est des États-Unis, la Manufacturing Belt. Elle compte alors une population approchant les 2 millions d'habitants qui travaillent tous pour des entreprises gigantesques telles que General Motors, Ford ou encore Chrysler. Malheureusement, cette idylle n'a pas duré. Victime de la concurrence asiatique qui s'affirme à partir des années 1960-1970, l'industrie automobile américaine entre en récession et la ville de Détroit entre, quant à elle, dans un cercle infernal dont elle n'est jamais vraiment sortie. La production commence à sérieusement diminuer, les usines débauchent de plus en plus, le taux de chômage augmente fortement. Ça n'est fini des glorieuses années de la Manufacturing Belt qui voit pulluler les friches industrielles et qui est alors rebaptisée dans les années 1990 la Rust Belt, la ceinture de la rouille. À Détroit, le taux de chômage augmente de plus en plus vite et les gens sont contraints de quitter la ville pour trouver du travail ailleurs. En l'an 2000, la Motor City, telle qu'on l'a surnommée autrefois, a déjà perdu 1 million d'habitants depuis 1960. Des 300 000 emplois industriels qui y existaient, il n'en reste plus que 25 000. La situation s'aggrave encore avec la crise des subprimes en 2008. La faillite des banques entraîne la ruine de milliers de petits propriétaires qui ne peuvent plus rembourser leurs emprunts et qui se voient contraints de quitter leur maison. Le prix de l'immobilier s'effondre devant la forte augmentation du nombre de maisons qui sont à revendre pour éponger les dettes accumulées. Certains tentent même d'y mettre le feu pour pouvoir toucher les dédommagements des assurances, sans succès. Les quartiers résidentiels de la ville sont totalement sinistrés et perdent toute attractivité, ce qui renforce encore l'émigration. La municipalité est elle aussi en grande difficulté. Les taxes et les impôts locaux n'en rentrent plus aussi bien qu'avant dans les caisses et la gestion du budget est calamiteuse. La gare ferme, les fonctionnaires ne sont plus payés, les effectifs de la police sont réduits de 40% entre 2000 et 2010. En cas d'urgence à cette époque, il lui faut une heure pour intervenir contre 10 minutes dans le reste des États-Unis. Le nombre d'homicides est en forte augmentation et fait de Détroit la ville la plus dangereuse des États-Unis, ce qui n'est pas peu dire. En 2014, la ville connaît aussi une coupure de courant tout à fait historique. En plus de tout ça, la municipalité est éclaboussée par de nombreux scandales. En 2008, le maire Kwame Kilpatrick est contraint de démissionner pour parjure. Il aurait menti pour cacher une relation adultère avec sa principale conseillère lors d'un procès pour licenciement abusif de 3 policiers qui a coûté la bagatelle de 8,4 millions de dollars à la ville.
Wow.
Les 3 fonctionnaires avaient été renvoyés après avoir enquêté sur une partie fine organisée par le maire dans sa résidence officielle.
J'y étais.
Vous me direz tant. En 2013, ce même maire est condamné à 28 ans de prison pour avoir monté un énorme réseau de corruption qui aurait entraîné le détournement de 83 millions de dollars. Il aurait dépensé 840 000 dollars de plus que son salaire et détourné des fonds de diverses associations créées pour venir en aide aux habitants de la ville. Finalement, en cette même année 2013, Détroit est déclaré officiellement ville faillite à cause d'une dette accumulée de plus de 18 milliards de dollars. L'État vient apporter une aide à Détroit d'une hauteur de 350 millions de dollars pour financer la démolition des bâtiments insalubres. Aujourd'hui, Détroit tente de revenir des enfers. L'effondrement de l'immobilier a permis à terme l'investissement de grandes entreprises, dont Ford, qui tente aujourd'hui d'y réimplanter et de financer la rénovation de la gare pour permettre l'arrivée de ses ingénieurs. Le prix du foncier, l'abaissement des taxes permet le retour d'ouvriers qualifiés et la renaissance des friches urbaines dans les centres-villes. Même si tout ce rebond reste encore très fragile, il faudra encore beaucoup de temps à Détroit pour retrouver sa gloire d'antan.
Ah, tu m'étonnes. Il y a du tragique hein, quand même là-dedans. Hein. Non, c'est fou. Moi, j'ai les pompes de Francis Lalanne, l'ampoule de Claude François. Je pars de ce pas acheter le smoking de Michel Sardou. On se voit dans 15 jours, Raphaël.
Pas de problème.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, on va écouter Trio, La Débandade.
Ah, tu m'étonnes.
Allez, on y va, les filles. Il est temps de suivre la route des boys band. Avant que notre arc débande. Il est temps de suivre la route des boys band. Avant que notre arc débande. Il est temps de plomber le reggae ici-bas, faire de la musique populaire qui danse facilement sur les pas. Il est temps de trouver les douces mélodies commerciales qui font hélas le rythme de la vie, petit producteur. Viens donc vers moi, crache tes thunes et détourne-toi de moi. Je n'ai rien à dire, rien à faire, hélas rien à chanter.
Mais il paraît que nos putains de gueules leur plaît.
Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande. Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande.
Il est temps d'envahir la France entière par notre faire luire nos corbules dibulées sous le soleil des tropiques. Laisser chemise ouverte, poil au fer, cheveux dans le vent. Se laisser glisser sur la mer bleue par un catamaran. Petit producteur, emmène-nous là-bas. De la thune, de la
coula.
Je n'ai rien à dire, rien à fermer en attendant.
Crache le maximum de brousouf et noir de vent.
Oh oh. Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande. Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande.
Bien visé.
Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande. Il est temps de suivre la route des boys band. Faut que notre arc débande.
Trio qui ont fini par suivre la route des boys band, n'est-ce pas? Ça arrive, on passe du trio sur Barthas. Merci beaucoup Raphaël, c'était la débandade. Bon, ça c'était sur l'excellent album, soit dit en passant, Il faut qu'il s'active, sorti en décembre 2000. Rendez-vous compte, j'avais 17 ans, Corto en avait 7, c'est fou comme le temps passe. Et puisqu'on parle de jeunesse sans transition, Corto, tu as rencontré Martin qui est un jeune emblématique de la région dans le cadre d'un projet radiophonique qui sortira en février voire mars.
Eh ben oui, tout à fait, on va pouvoir l'écouter.
On écoute Martin tout de suite.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Martin, j'ai 18 ans et je suis arrivé en Lozère à l'âge de mes 3 ans, il me semble. Je venais de Nice et puis j'ai fait toutes mes années collège, toutes mes années lycée ici.
Alors du coup, t'es quelqu'un de plutôt engagé ?
Ouais, bah je sais pas si je connais pas mon niveau d'implication en mode si je suis beaucoup engagé ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir toujours été un peu dans des actions autour de moi en Lozère notamment, en participant à des mouvements comme le mouvement Youth for Climate qui avait débuté en 2018 peut-être. Lors de mes années lycée, j'étais en seconde à l'occasion, et puis j'ai toujours été sensibilisé par le territoire qui nous entoure quoi notamment, donc je pense être engagé, oui, j'espère. Les luttes qui me tiennent à cœur, elles sont diverses parce que elles sont toutes liées. Je pense que la lutte anti-capitaliste, c'est la lutte principale que je mène parce qu'en fait, elle fait découler plein d'autres luttes. Elle cause plein de, le capitalisme cause plein de problèmes, notamment du coup dans nos relations. Donc là, je parle d'une lutte sociale, notamment les dominations hommes-femmes. Et la lutte écologique aussi. Le capitalisme détruit le monde dans lequel il prend place. Donc la lutte écologique me tient tout aussi à cœur. La lutte antiraciste, en fait, toutes les luttes vont de pair. Donc j'essaie de m'informer un maximum et de donner du coup la parole à d'autres personnes qui sont plus concernées que moi. Bah, je pense que cet engagement m'est venu de mes proches notamment. Et oui, en Lozère, comme tu dis, on est très enclavé, on est une population un peu à part. Et je pense que ce qui m'a le plus permis de rentrer dans cette lutte, c'est de voir que même en Lozère, il y a des dynamiques de mondialisation, de développement qui se mettent en place, notamment avec du coup la construction d'autoroutes, de ponts, de vouloir étendre avec une seconde zone commerciale à Monde, de toujours vouloir plus, de mettre des caméras de surveillance à Florac. Je vois un monde dans lequel j'ai vécu, mais humblement, ça fait pas des centaines d'années que je suis là, bien sûr. Enfin, du coup... À mon échelle, je me rends compte qu'il y a des choses qui changent pas dans le sens dans lequel j'aimerais aller. Et c'est en voyant tous ces aménagements dans un pays qui pourtant si, où il y a pas, enfin, la criminalité, c'est assez dérisoire ici. Il y a vraiment un espace, un cadre qui est magnifique. Des territoires qui sont super jolis et la volonté de toujours vouloir construire des trucs dessus, bétonner, trouver des alternatives, tout ça. Enfin, pas des alternatives, mais des justifications pour détruire tout. Je le vois même ici, donc en fait, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée dans la lutte et le fait de vouloir m'informer. Parce que quand t'es né en ville, peut-être que c'est des mécaniques qui existent déjà depuis plus longtemps. Et c'est peut-être plus dur de se rendre compte, je sais pas. En tout cas, ici, on s'en rend compte très vite, quoi.
Donc tu penses que c'est un peu la culture de la ville qui s'expand tout le temps, qui arrive un peu en Lozère et...
Ouais. Ouais, bah oui, complètement. Je pense que même Mende est touché, la mairie, la préfecture, il y a un milieu quand même un peu petit bourgeois sûrement de vouloir montrer qu'on est la préfecture de Lozère et tout, même si en vrai on y a, je sais pas trop, mais 20 000 habitants quoi, c'est assez ridicule. Mais il y a quand même une volonté de rayonner, de s'agrandir, de montrer qu'on est une puissance, une vraie préfecture quoi, mais en fait c'est un peu ridicule quoi. Moi je pense que le capitalisme est un problème majeur parce que il régit la société, c'est-à-dire qu'il donne les codes de comment les personnes vont se comporter, comment le fait d'avoir de l'argent influe sur notre comportement et tout ce qui en découle. Je pense que le véritable problème, il est à la racine de vouloir se développer tout le temps, de vouloir mondialiser toutes nos marchandises pour ouvrir un marché global et se faire un maximum d'argent, mais tout découle selon moi de cette volonté d'accumuler du capital et de faire que ce capital rapporte du capital à son tour. Je pense que le problème vient vraiment de là, mais je pense que en tout cas le capitalisme se sert sans doute des mœurs pour excuser certains comportements.
Le Moyen-Âge par exemple, c'était pas du tout une société capitaliste, alors que pourtant il y avait quand même des énormes problèmes de patriarcat, de classe, les écarts de richesse étaient absolument gigantesque pour l'écologie, c'était aussi désastreux, alors que c'était pas du tout capitaliste, quoi. Mm-hmm. Est-ce que le problème est pas bien plus large que le capitalisme?
Le problème est plus large, en effet. Mais oui, en fait, selon moi, tu parles du Moyen-Âge et c'est très intéressant parce que selon moi, c'est donc du coup un découlement naturel au Moyen-Âge, mais même on peut parler juste à enfin au Moyen-Âge du coup, il y avait des fiefs, des territoires, toute une hiérarchie et ensuite on a eu donc un système esclavagiste et tout ça, c'est un passé, un héritage de cette société dans laquelle on vit. Le problème est sans doute plus large, mais aller creuser trop loin dans le passé nous permet d'avoir des clés, bien sûr, mais on peut pas contester un modèle qu'il y avait dans le passé. Moi, je pense que vraiment la lutte, elle est présente et plus large, je vois pas forcément parce que en fait, dans tous les problèmes qu'on peut citer actuellement, et je peux citer quelques exemples, mais du coup, je t'ai déjà parlé de la domination des genres, le racisme, l'esclavagisme moderne des populations du sud, tous ces problèmes là ils sont liés à ce modèle là selon moi, enfin, puis en vrai selon moi, mais aussi je peux citer John Sidler qui a fait des études très intéressantes là dessus et qui a écrit pas mal de bouquins, c'est de lui dont je tire mes réflexions.
Qu'est-ce que tu penses des gilets jaunes?
Wow, quelle question. J'ai pas d'avis très tranché. J'ai suivi le mouvement, c'était pas loin de mon lycée, je suis allé voir et tout ça. Et je pense que c'était un rapport de force qui était très intéressant, qui a été très réprimé, que les idées à l'intérieur étaient peut-être pas très claires au début. Moi, je suis content qu'il y ait eu un mouvement contestataire. Forcément, c'était très populaire parce que du coup, les problèmes initiaux, c'était des problèmes économiques. À la base, les gilets jaunes se révoltaient pour des problèmes économiques et je trouve que c'est très chouette qu'il y ait une insurrection populaire. Après, j'ai peur que des dérives d'extrême droite puissent s'emparer de tels mouvements et c'est peut-être ce qui a été le cas à certains endroits par moment, mais je suis quand même très content d'un rapport de force et très attristé par la répression qu'il y a eu et le fait que finalement les impacts étaient... Enfin, il y a quand même eu un impact de faire que le président prenne la parole, fasse un discours, prenne des aménagements, mais finalement c'est assez minime quoi et ça s'est éteint, mais c'était quand même assez enthousiasmant, je pense.
Ouais, du coup, est-ce que tu penses que justement ces problèmes patriarcat, ces problèmes raciaux, ces problèmes d'écologie, est-ce que tout ça, t'estimes que ça découle des anciennes, enfin, est-ce que tu mets en cause les anciennes générations par rapport à ça?
Si tu veux dire, est-ce que je les accuse, quoi? Est-ce que je leur en veux? Ouais. C'est ça. Je pense que je leur en veux pas. En fait, j'en veux une catégorie sociale de personnes. Et qu'elle soit dans le passé ou dans le présent, pour moi, ça revient au même, mais j'en veux pas à mes parents, tout ça. Parce que pour moi, les problèmes découlent pas forcément des individus en particulier, mais d'un système, mais j'en veux donc sans doute au système. Mais mes parents, grands-parents et tout ça, ils ont vécu les choses comme nous, on peut le vivre. Il y a eu des mouvements d'insurrection, pareil, peut-être un peu moins globalisés. Mais j'en veux à la casse de personnes qui fait qu'on en est là aujourd'hui, de ces industriels qui veulent toujours accroître leur... je redis en fait finalement un peu toujours la même chose, mais j'en veux à une catégorie de personnes très ciblées, quoi, à une oligarchie et pas une population, quoi.
Comment tu vois le monde de demain?
En vrai je sais pas du tout, je suis un peu perdu. Moi, je suis vraiment très axé avec mes problématiques perso et plein de... je suis un peu perdu par rapport à ça. Comment j'aimerais qu'il soit, c'est... Enfin, j'aimerais beaucoup réussir à créer des collectifs d'action là, et sans Lozère, et qu'on arrive à stopper tout ça, quoi. Mais là, il y a tellement de problèmes. En vrai, c'est galère, quoi. Il y a vraiment tellement de problèmes partout que c'est dur d'y voir de l'optimisme. C'est sûr que si on continue à aller dans cette direction, juste on va se rendre compte qu'en fait, on n'a plus les moyens de continuer parce qu'on n'a plus les ressources. On a déjà consommé notre planète une dizaine de fois. Enfin. En fait, on aura tellement tout accaparé qu'on se rendra compte qu'on pourra plus. Et si on va vers cette lancée-là, ce sera catastrophique, et ça l'est déjà. Donc en fait, je suis très perdu, quoi. J'aimerais bien être optimiste et dire qu'on va tout changer, mais dans tous les cas, c'est pas une raison pour arrêter de lutter et tout ça. Je pense qu'il faut se donner jusqu'au bout, et ça donne au moins une raison de vivre, quoi. J'espère qu'on aura la parole, qu'on aura un gain de cause, quoi. C'est très triste ce que je dis.
Ouais, il y a un côté d'espoir aussi.
J'espère qu'il y a l'espoir.
Qu'est-ce que tu penses justement de Greta Thunberg, tiens?
Oh là là. Eh ben, j'ai... En seconde, je la considérais comme c'était un peu une idole. Après, je l'ai un peu perdu de vue. Enfin, je veux dire, on s'est un peu approprié la lutte. Au début, on luttait un peu parce qu'il y avait une icône qui nous avait dit ouais. Enfin, qui nous motivait quoi. Peut-être je m'exprime très mal. Je pense que je me suis un peu inspiré d'elle et j'étais très content qu'une personne prenne la parole et puisse directement s'adresser à des dirigeants et parler comme nous on aurait sans doute parlé, peut-être avec un peu moins de mots et de vocabulaire, mais de s'adresser à des dirigeants, j'étais très heureux. Après, je l'ai perdu de vue et c'était pas pour elle non plus que je luttais et on s'est un peu approprié la lutte. Maintenant, je suis pas du tout ce qu'elle fait, ni rien du tout. Mais je trouve que c'était chouette qu'une personne ose prendre la parole.
Tu trouves pas justement qu'elle a été traitée un peu avec mépris par rapport à ce qu'elle avait à dire?
Bah si, bien sûr. Il y a ce truc de on appelle ça l'âgisme, c'est le fait que les adultes pensent que les enfants n'ont pas forcément, ou enfants adolescents n'aient pas forcément une parole qui ait la même valeur. Je pense qu'elle a été victime de ça, que sans doute elle avait pas non plus toutes les réponses, elle avait pas forcément étudié tous les aspects, et que donc ses revendications étaient pas forcément viables partout, pour tout, mais si, il y a eu beaucoup de mépris sur elle. Forcément, elle dit des choses comme elle les entend, elle critique, elle rentre dedans. Enfin, c'est normal. C'est normal dans ce modèle-là que des gens la ridiculisent, quoi. Parce qu'en fait, ça les ridiculise eux-mêmes si jamais ils acceptaient de tels propos. Donc, si, il y a eu carrément du mépris sur elle. C'est clair.
Le modèle, du coup, pour toi, à mettre en place pour régler le plus de problèmes sociétaux?
Wow.
C'est sûr que c'est pas une question évidente.
Non, c'est clair. C'est ça. En fait, il y a deux trucs. Si jamais la société était pas comme maintenant, si jamais je prends la société comme telle, j'avoue que j'ai du mal à me projeter. Les systèmes qui moi me semblaient le plus cohérents, c'était des modèles. Je vais me faire ficher, mais des modèles anarchistes. C'est carrément ce qui me correspond le plus. Gouverner à grande échelle, ça me paraît complètement dérisoire. C'est-à-dire que si jamais on réduit ça à l'échelle d'un village, là on accepte qu'une personne ou un groupe de personnes prennent toutes les décisions et que lorsque le reste du village n'est pas d'accord, il y a une milice qui nous dise « Non mais écoutez, en fait vous avez pas votre mot à dire ». Donc en fait, ça me paraît complètement dérisoire de vouloir gouverner à grande échelle 60 millions de personnes ou 70 millions. Et le concept même d'État, en fait, il y a trop de choses qui me vont pas. Le système qui serait chouette, je pense que ce serait à revoir donc du coup à des échelles carrément plus petites. L'échelle d'un département, c'est déjà grand, hein, mais de vivre en communauté élargie avec des valeurs communes et surtout un échange entre ces communautés. Mais là, c'est complètement. En fait, c'est juste que maintenant, ça paraît complètement impossible. Il y a des exemples comme au Rojava où ils ont la communauté kurde a réussi à faire des choses, ou les apatistes et tout ça, et c'est très inspirant avec toutes des valeurs. C'est cool d'aller se renseigner là-dessus, il y a plein de choses à en tirer. Mais là, on est quand même vachement dans un truc de... On est quand même vachement ancré dans un truc de compétition. Donc si la France faisait ça, je pense qu'on se ferait... On serait juste démonté, je sais pas, mais ça me paraît très compromis, ouais.
Alors, est-ce que t'as un message à faire passer à la jeunesse?
Un message à faire passer à la jeunesse? Mais en fait, c'est un message que j'ai même envie de faire passer à tout le monde, c'est que la lutte, il faut se l'approprier, il faut, c'est chouette de s'informer et tout ça, et que en fait, si on est spectateur de toutes ces dynamiques et qu'on s'en extrait, qu'on continue notre vie juste comme ça, c'est triste. Et la lutte, elle se fait collectivement, pas forcément individuellement. C'est cool de retrouver des collectifs d'action, de s'intéresser, de lire des trucs. Il y a plein de bouquins et ce serait chouette d'ailleurs de créer une liste de bouquins qui peuvent être inspirants et qui peuvent partager plein de connaissances, tout ça. Je pense que le fin mot, c'est de créer des collectifs d'action ou d'en rejoindre.
Eh ben merci. Je crois qu'on est bon.
Merci beaucoup. Bon, du coup, là, je peux vous citer quelques bouquins qui peuvent être sympas à lire et puis à s'imprégner. Du coup, le premier, c'est Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra à la fin. C'est un livre de Jean Zidler. Il y a Les nouveaux maîtres du monde qui est aussi un livre de Jean Zidler. Un troisième qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État. Le quatrième, c'est Écologie sans transition. Et finalement, un bouquin qui s'appelle Le cœur sur la table, qui est issu des podcasts Binge Audio de Victoire Tuyon et qui remet en cause du coup le patriarcat. Et c'est une sorte de bouquin avec plein de témoignages et plein de choses de comment créer des relations autour de soi sans être imprégné de tous les vices dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà pour ce portrait de Martin qui ne change pas et ça fait du bien d'entendre sa parole. D'ailleurs, ils ont écrit avec ses potes un texte, un tout petit texte. Hein. Combien de temps il fait, mon Corto, à peu près, plus ou moins ?
Oui, pas très long, il fait 5 minutes, je crois.
5 minutes. Eh ben, on écoute ça pour finir cette matinale. À tout de suite.
Je suis né dans un monde où l'argent est la fondation du modèle sociétal. Je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement et je le combats. Je le dis sans complexe, le capitalisme est un ravage. Destruction des peuples et des milieux naturels, exploitation, catastrophe climatique, effondrement de la biodiversité, il nous retire toute considération, nous dépossède et consomme notre avenir. Ce ne sont là pas des paroles complotistes, mais des réalités que nombreux et nombreuses subissent. Si nous ne nous en apercevons pas tout à fait, c'est que nous ne sommes pas encore les plus à plaindre. Autour de nous, nombreux sont les exemples où le vivant est sacrifié pour favoriser le progrès, le développement et le profit. La zone d'aménagement concertée à Coucurès n'en est qu'une illustration. Et le capitalisme ne s'arrête pas au système économique. Il vient s'infiltrer dans nos relations personnelles, en plaçant des impératifs de compétition et de domination là où devrait régner l'entraide, l'écoute et l'attention. Les relations intéressées par les biens et les services se multiplient. La norme est de vivre chacun chacune sa vie dans son coin. Et ce n'est pas une évolution innocente. La stratégie de diviser pour mieux régner s'applique en effet même dans nos modes de vie les plus intimes. Finalement, le capitalisme agit comme un fluide qui s'écoule partout où nous lui laissons de la place. C'est en son nom que les individus assignés hommes à la naissance étendent et renforcent leur domination, et ce en parfaite inconscience la plupart du temps. Patriarcat et capitalisme avancent main dans la main, propageant les mêmes valeurs morbides. La Lozère est belle de ses immensités vides d'êtres humains, de ses forêts profondes, de ses cours d'eau qui serpentent dans les vallées, de ses transhumances et de ses cabanes de bergers et de bergères, de ses gorges et de ses hauts plateaux, de ses espaces où tout n'est pas encore joué. La Lozère est belle de ces lieux qui ne sont pas régis par les impératifs de rentabilité, de productivité, d'efficacité. Elle est belle de ces endroits qui ne sont pas encore des marchandises, de ces endroits qui vivent pour eux-mêmes et qui laissent entrevoir la possibilité d'un monde au-delà du capital. Elle est belle aussi de ces histoires de résistance, des légendes des camisards et des maquis, des clandestins d'hier et d'aujourd'hui qui se retrouvaient au pied des vieux faillards ou dans les denses vallées sévenoles, des lieux où se réfugier, se retrouver et se préparer à l'attaque. On voudrait nous faire croire que la Lozère doit se désenclaver, se connecter, se moderniser, se développer, devenir attractive, croître, produire, tourner la page d'une histoire qui nous unit. On nous donne comme norme la métropole et on nous laisse guère le choix de s'y conformer. Alors même que nous n'avons rien à envier aux immenses villes, aux déserts industriels, aux morbides smart cities et à leurs individus atomisés. C'est au nom du progrès, de la compétition, du développement que la mairie demande entend toujours plus urbaniser, bétonner, détruire. C'est au nom de la cité connectée et de son mythe séculaire que les caméras apparaissent dans nos villes et villages. C'est au nom de l'état raciste que nos frères et sœurs sont expulsés de nos vallées par la préfecture après avoir traversé à pied et en bateau gonflable d'innombrables territoires. La question est, quand est-ce qu'ils s'arrêteront? Pourquoi s'arrêteraient-ils? Qu'est-ce qui les empêcherait d'installer des caméras dans chaque châtaignier? De parsemer les cosses de zones industrielles? De construire une deux fois deux voies dans les gorges? D'expulser une par une les personnes exilées et de faire demande d'une mégalopole? La seule chose qui les arrêteront, c'est la résistance. La lutte collective, le rapport de force. Si nous ne faisons rien, ce sont les limites naturelles de la planète qui arrêteront les capitalistes et alors, il sera bien trop tard pour espérer sauver nos valeurs et nos vies. Nous devons poursuivre et renforcer les dynamiques de résistance existantes et en créer de nouvelles là où il n'existe rien pour l'instant. Nous devons opposer à chaque projet destructeur la lutte et la rage de celles et ceux qui veulent vivre. Nous devons nous retrouver et nous organiser collectivement, reprendre confiance dans notre pouvoir d'action, oser aborder des sujets politiques, polémiques, profonds. Il n'y a pas de fatalité, l'avenir est loin d'être écrit, et il est sûr que l'on n'entrera pas dans un monde meilleur sans effraction. C'est sûrement encore très flou et peu confortable, mais la lutte collective est bien plus responsable, riche en apprentissage et en relations, beaucoup moins désuète que la loi des petits gestes individuels. En Lozère, en ce moment, il y a des terres à défendre, des gens à aider. Voilà des projets qui sont en cours, arrêtés pour un moment ou déjà là. La ZAC de Coucurès par exemple, la ZAC de Mende, le projet de Burger King, la surveillance caméra à Florac qui risque de devenir une norme, l'installation de Marie Blachère, véritable coup dans le dos des boulangeries artisanales dans le centre-ville, l'immense Hyper-U qui a déjà fait ses preuves en étant par exemple lié à la fermeture de plusieurs librairies, une illustration parfaite des dynamiques de développement qui font la fierté des élus. L'avenir, c'est nous, mais plus pour longtemps si nous les regardons détruire ce qui nous est le plus cher.
C'est sûr. Merci Martin. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Corto. À mercredi, en forme.
Eh ben de rien, ouais. On se retrouve mercredi pour une nouvelle aventure.
On se quitte avec Bruce Springsteen, le mot que je n'arrive jamais à dire. Le boss Street of Philadelphia. Vous êtes bien sur le 107. Vous êtes bien sur Bartas. Prenez soin de vous. À mercredi. Ciao.
Each other alone like this on the streets of Philadelphia.